c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Julie Sigel et aujourd'hui nous recevons Lucas.
Bonjour.
Lucas Borza.
C'est
oui, qui vient nous parler des addictions. Alors, je préfère vous le dire, on a décidé avec Lucas de parler des addictions durant 3 émissions. On va consacrer la première émission à la cigarette, c'est celle que vous allez écouter tout de suite. Et ensuite, on va poursuivre avec 2 émissions, une sur l'alcool et une sur...
le cannabis.
Tout à fait. Donc, autant vous dire qu'on a un programme chargé. Donc, Lucas, on va commencer tout de suite par te présenter. Est-ce que tu peux dire un peu à nos auditeurs pourquoi tu es notre personne spécialisée des addictions ? Est-ce que tu as tout essayé ?
Je ne dirais pas ça, non. Mais si je suis invité, c'est parce que moi, je suis psychologue, du coup. J'ai une spécialisation et je suis aussi chargé d'enseignement à la faculté de Strasbourg où j'ai un cours sur la thérapie des addictions, comment prendre en charge les gens qui souffrent d'addiction.
Donc on est entre de bonnes mains aujourd'hui.
On va espérer.
Ouais. Donc on va tout de suite commencer avec notre première rubrique.
C'est l'heure de la rubrique.
Et vous, quel ado étiez-vous ?
Lucas ?
Quel ado j'étais ? Je pense que j'étais un ado qui aimait bien travailler, qui aimait bien rigoler. Et j'ai toujours cherché, je pense, à savoir un peu comment les choses fonctionnaient, quel que soit le domaine, en fait. Donc, je dirais que c'est pas toujours simple de rester dans le système quand on a cette curiosité. Et en même temps, c'est ça qui fait, je pense, que quand on a trouvé quelque chose qui nous plaît, on arrive à réussir dans ce domaine-là, quoi.
Et tu as fait tes études à la faculté de Strasbourg ?
Oui, moi j'ai fait 2 ans de fac à Strasbourg. Ensuite, je suis parti 1 année au Canada, où là j'ai découvert différentes formes de thérapie qui sont un peu plus facilement utilisables là-bas. Et du coup, je suis revenu après à Lille, dans le seul master qu'il y avait à l'époque sur les TCC.
Ah, donc tu n'étais pas à Strasbourg faire ton master de TCC ?
Pour le master, non.
D'accord.
Le master s'est créé à mon retour à Strasbourg, en fait, la même année.
Ah oui, très bien. Par Madame Tassi, nous le rappelons.
Exactement.
On la salue, d'ailleurs.
Tout à fait, bonjour
chaque
Patricia.
Fois qu'on peut. Exactement. Alors Lucas, on va tout de suite passer à notre sujet du jour, qui est donc la cigarette.
Retrouvons maintenant le témoignage de 2 jeunes qui nous parleront de leur rapport à la cigarette.
Oui, donc bonjour.
Bonjour.
Donc on va garder votre prénom anonyme. Je voulais juste savoir quel âge vous aviez, en fait.
J'ai 18 ans.
D'accord. Donc là, je vous ai croisé en fait dehors d'un resto et vous êtes en train de fumer une cigarette dans la rue. Ça fait longtemps que vous fumez ?
Non, ça fait, je dirais, 1 ou 2 mois.
D'accord. Et vous avez commencé comment en fait ?
Parce qu'en fait, tout mon entourage fume et du coup, à force d'avoir des potes qui fument à côté, bah, du coup, forcément, j'étais un peu, on m'imposait, mais du coup, enfin, on me proposait. Du coup, finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à fumer de plus en plus. Mais ça, là, je tourne à 1 ou 2 clopes par jour. J'essaie de réduire. Et finalement, ça va. Comparé à d'autres qui fument genre 10 clopes par jour. Genre, je trouve ça beaucoup trop. Alors que du coup, j'essaie de réduire un peu. Et
vous pensez que les effets sur la santé sont différents quand on en fume moins ou chaque jour ou... Vous êtes déjà renseigné là-dessus ?
Je m'y connais pas trop. Bah, forcément, c'est mauvais. Et je pense que c'est mieux si on fume moins, forcément. Mais ouais, c'est mieux de réduire forcément. Donc, je pense qu'il faudrait essayer de réduire de plus en plus jusqu'à arrêter de fumer. Je pense que dans 1 an, j'arrêterai de fumer forcément.
D'accord, ok. Bah, je vais interroger votre camarade qui est à côté de vous. Et donc vous avez quel âge ?
18 ans aussi.
18 ans aussi, d'accord. Et vous avez une relation à la cigarette qui est plus longue que monsieur ou pas ?
Non, moi aussi c'est récent. Moi ça fait 6 mois. Et ouais.
Donc c'est quoi ? C'est après le bac que c'est survenu ?
Pendant, un peu avant. En fait, je fumais pas du tout, j'étais totalement contre, mais vraiment contre. Et j'avais des gens de mon entourage qui fumaient, et une fois j'étais stressée et j'ai commencé du coup.
Vous avez tout de suite aimé, dès la première cigarette ?
Non, ça par contre, ouais. J'ai testé plusieurs fois, ça passait jamais, mais je voulais savoir ce que ça faisait. Et un jour, en fait, j'ai, du coup, j'étais nerveuse, j'ai essayé, et c'était la fois qu'il fallait pas du coup.
D'accord. Et vos parents sont conscients que vous fumez ?
Mes parents, ils l'ont découvert, mais on n'en parle pas et je fume pas devant eux, quoi.
D'accord. Donc, vous en parlez pas, c'est-à-dire, ça a été quoi, leur réaction de départ ?
Bah, mes parents, ils fument pas. Donc, du coup, il m'a regardé, il m'a dit « Tu fumes ?» parce qu'il m'a vu. Et je lui ai dit « Bah, ouais, du coup, un peu. » Et voilà. Et donc, ils l'ont su.
Et vous fumez chez vous, dans votre chambre ?
Non, je fume que à l'extérieur.
D'accord. Et vous, d'ailleurs, jeune homme, vous fumez dans votre chambre ?
Ouais, mais en fait, j'ai un appartement. Elle, c'est différent parce qu'elle habite avec ses parents.
Ah oui, bien sûr.
Et moi, je suis dans un appartement. Du coup, bah, je suis des fois au balcon de temps en temps le soir. En vrai, moi, j'aime bien fumer parce que ça me détend personnellement. Enfin, genre, que je suis stressé, la même chose. Genre, je sais pas, ça me fait du bien en fait.
D'accord.
Du coup,
j'aime bien. D'accord. Bah merci, on va interroger votre troisième camarade en fait qui est avec vous dehors dans le froid et qui elle vous assiste en fait dans cette activité. Qu'est-ce que vous en pensez vous?
Je pense que c'est inutile, en fait c'est dans la tête.
D'accord.
Parce que eux ils disent que ça les déstresse, mais en fait je pense que c'est dans la tête et que c'est qu'une habitude.
Donc, on vient d'écouter un petit enregistrement d'un jeune homme et d'une jeune fille qui nous parlait un peu de leur relation à la cigarette. Mm-hmm. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire, en gros, quelle est la relation ? À quel âge commence-t-elle ? Est-ce que donc il y a un âge où on est plus susceptible de commencer ?
Plus ou moins non, ça dépend vraiment des gens, dans le sens où une addiction, pour qu'elle devienne une addiction, dépend de plusieurs processus. C'est un vrai processus complet de plusieurs variables. Donc la cigarette en elle-même, ça commence la plupart du temps dans tout ce qui est niveau collège, lycée. C'est là qu'on voit la plupart des débuts de consommation, ça se fait à cet âge-là. Et pour différentes raisons, mais à peu près dans ces eaux-là, oui.
D'accord. Est-ce qu'on peut rester un fumeur occasionnel ?
C'est techniquement possible, ouais.
Mm-hmm.
Ça dépend vraiment de comment on utilise la substance, ça dépend de comment on utilise la cigarette, du coup, et ça dépend un peu des attentes qu'on en a.
Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, le problème de l'addiction, c'est qu'il s'installe un peu à nos dépens. On ne s'en rend pas compte et tout à coup, le produit devient nécessaire ou en tout cas entrave notre liberté.
Exactement. Les raisons sont toujours bonnes, en fait, pour commencer. Il n'y a jamais un problème à tester une substance.
Oui.
C'est ce qui se passe après qui devient vraiment problématique et sournois d'ailleurs.
Exact. Tu pourrais nous expliquer un petit peu comment se met en place justement une addiction, que ce soit la cigarette ou autre. Enfin, on va prendre l'exemple de la cigarette dans cette émission, mais bon.
Bah, en fait, l'addiction à la cigarette a, comme dit tout à l'heure, différentes composantes. L'aspect vraiment biologique, neurochimique, c'est-à-dire que c'est des substances qui ont un effet sur notre cerveau. Ça va venir jouer sur certaines parties de notre cerveau qu'on appelle le circuit de la récompense.
Oui.
Donc, ce circuit de la récompense, il libère certaines molécules, des neurotransmetteurs, de la dopamine. Et cette dopamine nous donne envie de continuer ce qui a sécrété la substance.
D'accord.
Donc, en fait, au niveau chimique, on est déjà prédisposé à continuer quelque chose qui nous plaît, mais pas forcément une substance. Ça peut être les addictions sans substance existent à cause du même principe. Donc, il y a cette partie chimique et après, il y a cette partie vraiment psychologique où là, on l'entend dans différents témoignages, c'est que ça a un effet sur les émotions. Donc, on espère avoir un effet sur des émotions. Donc, cette composante psychologique explique aussi pourquoi on y retourne, parce qu'on veut quelque chose de la substance.
Et pourquoi on l'associe souvent à un retour au calme ? C'est-à-dire la cigarette, oh là là, j'étais stressée. Bah, dans le témoignage, justement, la jeune fille nous parlait du fait que voilà, c'était l'approche du bac. Elle s'est mise à fumer à ce moment-là parce qu'elle était extrêmement stressée. C'est un vrai effet calmant, la cigarette ?
Ben, c'est assez paradoxal parce que la cigarette est assez psychoactive, en fait.
C'est plutôt un excitant,
la cigarette. C'est plus au niveau là, attentionnel et psychologique, que quand on se concentre dessus, on a associé par conditionnement à un moment de détente. Je fais une pause, je vais fumer une clope, ça me permet de décompresser. En fait, c'est toutes ces pensées-là qui vont avoir un effet relaxant plus que la substance.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, la pause est autorisée par le fait qu'on fume une cigarette. C'est-à-dire,
exactement.
Sinon, on n'aurait pas le prétexte à prendre une pause.
Voilà.
Plus
et puis,
ou moins.
Exactement. Il y a quand même l'effet un peu ce qu'on appelle le shoot nicotinique, qui fait qu'en 7 secondes, on a quand même un effet sur le corps qui nous permet de ressentir une vraie sensation d'apaisement tout de suite, mais qui passe très vite au final.
D'accord. Merci. Donc, on parlait de cette perte de liberté. C'est donc ça, l'addiction, on l'a dit. Mais Ça veut dire la liberté, perte de liberté, on ne peut pas fonctionner sans ce produit, ou bien ça peut engendrer, j'imagine, des problèmes même financiers, des problèmes... Pendant qu'on préparait cette émission, tu nous disais que les jeunes, ce qui les arrête, c'est plutôt l'aspect financier par rapport à la cigarette, parce que c'est trop cher maintenant, c'est ça ?
Oui, ça commence à jouer. En fait, le prix marche sur les nouveaux consommateurs. Le fait que le prix soit très élevé dissuade plus les gens de commencer.
Mais ceux qui fument déjà,
ça change rien.
Ils vont en Allemagne ou...
Exactement, en Allemagne et ailleurs.
Oui, où ils se mettent à fumer des roulés, où je sais pas, ils achètent du tabac à... Comment on appelle ça ? Remplir les tubes, là ? Enfin, je sais pas.
Ah, oui, pour les tubes, oui.
Ouais. Donc, en fait, on dit que la première cigarette est toujours mauvaise. Alors, pourquoi est-ce qu'on y revient, finalement, quand même ? Pourquoi on essaye une seconde fois quelque chose qui nous a pas plu ?
C'est un petit peu comme l'alcool. Beaucoup de gens n'aiment pas le vin la première fois qu'ils en boivent. Ou de les alcools forts, ça brûle, ça pique. Pareil pour les jeunes qui boivent de l'alcool. Il n'y a pas un plaisir du goût, en fait. C'est vraiment tout l'aspect en parallèle. C'est qu'est-ce qu'on veut avoir en faisant ça. Si on fume une cigarette, c'est qu'on a un objectif. Comme on ne connaît pas ce que ça fait, soit c'est la curiosité, j'ai envie de tester. Ouais. J'ai pas aimé, mais je veux voir. Il y en a qui me disent que ça détend, donc j'ai quand même envie d'essayer.
Qui sont souvent à côté de nous au moment où on teste, d'ailleurs.
En plus, voilà. Et après, il y a tout ce côté, les représentations qu'on en a. Je veux dire, jusqu'il y a quelques années, fumer, c'était super bien, c'était tendance. C'était un signe aussi un peu de rébellion, c'était un signe de maturité. Il y avait même un aspect assez sexy pour les femmes qui fument, très James Bond pour les hommes qui fument. Donc, il y a beaucoup de représentations positives, en fait, aux cigarettes, mais à toute substance ou autre. Et en fait, c'est toutes ces représentations positives qu'on a en tête qui nous conduisent à avoir envie d'essayer.
Ouais, je vois. Et là, c'est passé de mode, la cigarette, d'après toi ?
J'aurais tendance à dire que oui.
Ouais, j'ai le sentiment aussi. Mais malgré tout, si on passe devant les collèges, on voit quand même encore des petits groupes y toucher, etc. Donc,
c'est plus ciblé, mais comme c'est beaucoup moins démocratisé, accepté partout, avant on fumait dans les avions, aujourd'hui on peut même pas fumer à moins de 10 mètres d'un resto, par exemple, je caricature, mais c'est ça.
Ouais.
C'est ça le problème, en fait. C'est qu'ils arrivent à empêcher des nouveaux fumeurs d'arriver, je pense, par ces moyens.
Ouais, c'est quand même pas mal que ça existe. En fait.
Ouais, si on est dans cette logique où on veut nous enlever nos droits.
Ouais c'est ça. C'est aussi une certaine forme de privation de liberté, effectivement. Quand on interroge les jeunes, ils disent tous qu'ils maîtrisent leur consommation. Moi, je fume qu'en journée. Moi, je fume que les week-ends. Est-ce que c'est possible de tenir dans la durée et de rester un fumeur du samedi soir, par exemple ?
C'est beaucoup, beaucoup plus rare. En fait, à partir du moment où on en a besoin quand même de temps en temps, c'est que notre cerveau fonctionne sur ce procédé-là. Il a besoin de ce renforcement par la substance. Donc, ça tient le temps que ça tient, mais ça veut quand même dire qu'on a notre cerveau qui est prédisposé à avoir besoin de quelque chose à un moment.
Ah, donc tu veux dire que le temps en temps, quelle que soit la substance qu'on a arrêtée, il n'est pas admissible ?
Il n'est pas admissible et puis il peut même se transférer sur d'autres choses, d'autres substances ou d'autres mécanismes de gestion d'émotions qui sont toujours externes à l'individu. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin de ça pour s'amuser, pourquoi ? Ça veut bien dire qu'il dépend de quelque chose pour s'amuser. Donc même si c'est qu'une fois par semaine, ça veut dire que maintenant il a intégré que pour s'amuser il faut ça. Ou pour lâcher prise, ou pour décompresser. Donc au final, toute sa vie, il est un peu prédisposé à devoir dire non des fois, oui. Donc s'il arrive à résister toute sa vie, ça existe, mais c'est beaucoup plus rare, parce qu'à un moment, on en a marre et la vie est de plus en plus dure, donc il faut un peu d'autres choses qui viennent nous aider. Mais ça veut dire qu'on est un peu dépendant à une chose extérieure pour nous aider.
Ah oui, je vois. Donc peut-être compenser sur d'autres choses alors.
Voilà, ça peut être la nourriture, ça peut être les sorties, ça peut être les sensations fortes, ça peut être plein de choses.
Oui, bah je vois. Je comprends le parallèle. Donc comment est-ce qu'on est supposé réagir en tant que parent face à la consommation tabagique de notre ado ?
Menottes, cordage, cave.
La base.
La base, je pense que ça, c'est ce que je recommanderais en premier.
Bien sûr.
Si jamais ça ne marche pas. Voilà. On a des alternatives aujourd'hui. C'est, étant donné que c'est un produit qui est somme toute légal, je pense qu'il ne faut pas l'ostraciser non plus.
Contrairement au cordage.
Contrairement au cordage où, ouais, effectivement, je me suis renseigné avant de venir. Finalement, c'est pas autorisé tout le temps. Bon, en tout cas, c'est un peu bateau de la part d'un psy, mais je dirais, faut en parler, faut pas en faire un tabou. De toute façon, une consommation, si la personne veut consommer, elle le fera. Ça, c'est clair. Les enfants, nos ados, ils ne sont pas avec nous trois quarts de leur vie. Ce n'est certainement pas une politique d'interdiction massive et de dépréciation qui va marcher. On le voit avec les écrans, par exemple, où on a des parents qui sont contre des écrans.
Ah,
ouais.
Ça existe.
Et en fait, plus on va se faire l'ennemi des écrans, plus on va perdre son enfant, en fait, dans le lien qu'il a avec la substance ou l'écran.
Bien sûr, ouais, je comprends. Mais ce n'est pas facile de rester cool.
Non,
temps.
C'est pas facile.
Voilà.
C'est peut-être même pas possible.
Ah.
Pas tout le temps.
D'accord. Merci. Donc, est-ce qu'on laisse l'ado fumer à la maison alors ? Parce qu'on est cool, on est dans Mad Men, tout le monde fume, normal.
Ouais. Bah, c'est clair que après, j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup de la famille. C'est-à-dire que faut qu'il y ait des règles quand même. Mm-hmm. C'est pas open bar, on fait ce qu'on veut.
Pas au petit déj, quoi.
Non. Ça se discute, mais en tout cas ça dépend, je pense que c'est plus des règles de vie qu'il faut plutôt que des règles de consommation. C'est que si quelqu'un fume et que ça dérange sa famille, c'est plus par respect qu'il doit pas fumer, je trouve.
Oui, tu
vois. Donc c'est plus ce côté vie de famille, vie ensemble qui va définir qu'est-ce qu'on fait ou pas. Si les parents fument ou d'autres enfants fument, c'est pas la même chose que si c'est le seul. Si ça les dérange ou si ça les dérange pas, s'il paye lui-même ses cigarettes ou pas, tout ça, c'est des trucs qui vont un peu influencer la décision finale, qui nous revient jamais à nous, professionnels, c'est toujours la famille qui le fait, mais d'emblée dire non, je pense que c'est pas toujours...
Ah, c'est vrai.
Ouais.
Moi, j'avais cette croyance que tu pouvais dire à ton ado, bon, bah, tu fumes, qu'est-ce que je peux y faire, hein, finalement, je peux pas te ligoter, enfin, puisque maintenant c'est conseillé par un psy, on va en parler, mais admettons, je t'ai surpris en train de fumer, mais par contre, je ne veux pas te voir, moi, fumer, jamais, ça n'existe pas pour moi, enfin, voilà, tu fais ça ailleurs. Non.
Oui, bah, oui, il sortira plus souvent de la maison, du coup.
C'est vrai. Par contre, oui, si le parent a lui-même un historique de fumeur... C'est un peu délicat de dire, voilà, je fais, mais pas toi, ou bien qu'est-ce qu'on dit ? On dit, je suis adulte, toi t'es... Donc tu fais pas ?
Il y a toujours ça aussi, hein, c'est ce côté un petit peu, quand tu seras majeur et vacciné, tu feras ce que tu veux, ça marche. Mais encore une fois, il faut toujours se demander, quand on est fumeur, à quel âge on a commencé. Souvent, c'est quand on est mineur, donc... Utiliser la carte de l'adulte, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Je pense que mettre une limite, si un parent veut dire non, ne fume pas à la maison ou ne fais pas ce que j'ai fait, il a tout à fait le droit, c'est aussi dans son rôle quoi, hein, de le faire. Par contre, si on est soi-même fumeur ou ancien fumeur, je pense que ça devrait plus rapprocher les gens que les éloigner. C'est-à-dire qu'on peut comprendre pourquoi son enfant fume si nous-mêmes on fume. Ça ne veut pas dire qu'on est plus permissif. Pas forcément. On peut tout à fait lui expliquer que ce que nous, on a fait comme choix, il n'est pas obligé de faire les mêmes et que notre expérience peut lui servir. C'est comme l'heure du coucher. Je veux dire, un enfant de 8 ans ne va pas se coucher en même temps que nous, adultes.
Bien sûr.
Il y a des raisons à ça. Mm-hmm. C'est pareil avec l'âge et la cigarette ou le cannabis. Il y a des raisons à ne pas fumer jeune, par exemple. Donc, c'est plus ces raisons-là qu'il faut mettre en avant que le fait que ce soit interdit.
Ouais, je vois. Mais statistiquement, tu sais quelque chose de la... possibilité de devenir fumeur soi-même si nos parents étaient fumeurs ?
Non, je ne connais pas la stat, mais à la fois...
C'est assez élevé, il me semble.
Ouais, je pense, ça ne m'étonnerait pas que ce soit élevé, dans le sens où même physiologiquement, sur le circuit de la récompense dont on parlait avant, on est un peu prédisposé à avoir le même si nos parents nous le transmettent, donc on est déjà un peu plus vulnérable. Et en plus de ça, sur les habitudes, on observe, on voit, on apprend. Un enfant de 4 ans qui est capable de me dire « Non, non, mais maman, elle a besoin d'une cigarette, là. » Il a déjà intégré que la cigarette avait un effet.
Ouais, bien sûr.
Donc ça le prédispose aussi, forcément.
J'avais lu une fois une étude là-dessus. Moi, après, c'est complètement pas du tout référencé. je ne suis pas capable de te dire d'où ça sortait, mais que ça peut être aussi une odeur qui rappelle l'enfance. Et que finalement, on peut compenser... un peu ses émotions par le biais de la cigarette, parce que c'était l'odeur de maman quand on était petit et qu'on se réfugiait dans ses bras.
Exactement.
Il faut y penser parce qu'on a eu des études aussi qui ont montré récemment que les vêtements qu'on porte sont encore couverts de substances nocives pour les enfants. Donc même quand on entre dans le domicile, qu'on dit « Ah non, moi je ne fume pas à l'intérieur », c'est important de savoir que malgré tout, voilà, il y a des substances sur les vêtements qui peuvent être nocives pour les enfants et d'ailleurs pour les autres adultes aussi. Comment est-ce qu'on peut être un exemple pour son ado ? Est-ce qu'on peut dire, allez, écoute, alors le 1er janvier, tous les deux, on s'arrête de fumer. Je t'achète un patch, je m'achète un patch et hop, on fait ça ensemble. Est-ce que ça marche, ce genre de plan ?
Ben, ça dépend surtout de... Quand on parle de sevrage tabagique, on parle beaucoup de motivation au changement. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence, c'est qu'un arrêt spontané marchera toujours mieux qu'une prise en charge. Okay. Quelqu'un qui décide d'arrêter lui-même, y arrivera mieux que s'il va chercher de l'aide chez des psys ou des hypnotiseurs ou autre.
D'accord.
Par contre, ce qui devient une vraie question, c'est comment susciter la motivation à arrêter. Ça, c'est vraiment notre partie plus professionnelle à nous. Au lieu de dire que c'est mal et que c'est mauvais, comme les toubibs ont pu le faire il y a certaines années, on va vraiment chercher à augmenter la motivation à arrêter la substance.
D'accord.
C'est ça qui fait que... Donc, si le 1er janvier, l'ado veut arrêter aussi et qu'il est à fond motivé, c'est super de le faire à plusieurs. Il y a un vrai partage possible et c'est, on peut s'entraider, on peut se soutenir. C'est malin. S'il n'y a pas de motivation, je pense que c'est une bonne idée, mais ça ne marchera pas forcément.
D'accord, merci. On va écouter tout de suite un petit enregistrement d'une jeune fille de 20 ans qui nous explique comment elle a arrêté la cigarette. Et on va revenir dessus après. Alors bonjour.
Bonjour.
Donc déjà, je voulais savoir, vous avez quel âge ?
J'ai 20 ans.
Vous avez 20 ans, d'accord. Donc vous avez été fumeuse ?
Oui, pendant 5 bonnes années.
Ah oui, vous aviez commencé vers 15 ans ?
Oui, à peu près, oui.
Et c'était quoi votre rythme de consommation journalière ?
Au début, c'était avec les copines, c'était des copines qui m'en donnaient. Hein, et après, au bout de 3 ans, j'ai commencé à m'acheter des paquets. Et quand j'ai eu le permis, je suis allée en acheter en Allemagne. Donc ça a augmenté au fur et à mesure que je pouvais, en fait, que j'avais les moyens, avec un salaire et avec la voiture, d'aller m'en acheter. Et c'était 3 paquets en Allemagne, 3 paquets par semaine.
D'accord.
Ouais, donc c'était quand même beaucoup, quoi.
Et davantage le week-end, vous avez toujours le même rythme de...
Non, le week-end, beaucoup plus, bien sûr, forcément.
Souvent,
Ouais, les fêtes. Ouais,
quand on sort, d'accord. Et vous avez arrêté de fumer?
Oui, apparemment, oui.
Il semblerait.
Oui, il semblerait. Ouais. Moi, j'en suis fière, je ne vais pas le cacher.
Hein, ah, mais vous avez raison. Donc, comment ça s'est fait?
Je suis sortie d'une relation toxique avec un copain avec qui je fumais énormément et qui me poussait à fumer, en fait. Aussi plus que moi-même de mon côté.
Ça faisait partie de vos rituels de couple, quoi.
Ouais, voilà.
Aussi, d'accord.
Et du coup, après, j'ai rencontré une autre personne qui était non-fumeur.
Donc, oui.
Alors, ça change la donne, déjà. Et qui ne supportait pas l'odeur de la cigarette. Donc bon, il ne m'a pas forcé ou quoi. Il m'en a parlé gentiment. Et moi, je me suis rendu compte que, oui, voilà, pour des questions de santé, etc., il valait mieux arrêter. Mm-hmm. Du coup, j'ai décidé d'acheter une cigarette électronique. Pour passer par ce moyen-là, pour commencer à diminuer déjà le nombre de cigarettes que je fumais.
D'accord.
Donc j'ai diminué le nombre de cigarettes par jour.
En combien de temps ?
Ça s'est fait en à peu près 3 semaines, 1 mois. J'ai diminué à chaque fois de 1 ou 2 clopes par jour, au fur et à mesure.
D'accord.
Et après, j'utilisais la cigarette électronique à la place.
Avec de la nicotine dedans ? Ou neutre ?
Oui, avec de la nicotine.
D'accord.
J'étais à 6 mg, je suis descendue à 3, donc c'est vraiment peu. Et après, je suis passée directement à 0, c'était juste pour le geste, en fait, l'habitude.
Ah, je comprends.
Et du coup, après 3 semaines, 1 mois, je me rappelle que j'étais allée en boîte, et comme à chaque fois qu'il y a une fête ou quoi, j'ai fumé énormément au point d'être dégoûtée par l'odeur. Et le lendemain, je me rappelle qu'il me restait 3 cigarettes dans mon paquet, j'ai donné à mon mec et je lui ai dit non. Si j'arrête, c'est mort, c'est bon, j'en ai marre.
Et là, c'était fait, quoi.
Voilà.
Et vous avez continué quand même la cigarette électronique un petit moment ?
J'ai continué après pendant au moins un mois. Mm-hmm. Et après, j'ai enlevé le taux de nicotine.
Oui.
Donc, c'était juste pour le goût. Et maintenant encore, je l'utilise pour certains moments, comme le trajet en voiture.
Comme une béquille, en fait. Comme une béquille.
Au cas où, quoi. Les moments où j'ai le plus envie ou quand il y a des fumeurs à côté de moi, forcément. Et sinon, mais j'en sors.
Mais c'est intéressant d'avoir cet outil en fait dans votre sac qui vous fait dire non, j'accepterai pas une cigarette parce que je sais que j'ai ça au cas où. Voilà. Et je pense que ça peut aider aussi les ados, même si maintenant on a un peu peur que peut-être on passe à la cigarette électronique pour y rester. Mmh. Il faut dire qu'il y a certaines personnes comme pour vous pour lesquelles ça a été vraiment une bouée de sauvetage au départ et que vous savez que vous l'avez toujours dans votre sac au cas où il y a une tentation.
Mais voilà, juste même le fait de l'avoir. Je sais qu'une fois, je l'avais oublié chez moi et la journée, j'étais pas bien parce que je me suis dit, si je vais avoir l'envie, j'aurais plus de chances de craquer. Juste l'avoir, même ne pas l'utiliser, c'est déjà
hyper intéressant. Génial. Ouais. Et ça, c'est il y a combien de temps que vous avez arrêté réellement ?
Ça fait 8 mois maintenant.
Mazel tov.
Merci.
Super. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. C'est très précieux pour les ados. Merci. Voilà, donc on se rend compte qu'elle a arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. Et qu'elle nous dit donc dans l'enregistrement, comme tu as pu l'entendre et vous aussi, qu'elle la garde tout le temps dans son sac comme, comme une béquille ou comme finalement quelque chose de, qui peut aider à ne pas revenir vers la substance initiale. C'est une bonne idée ça ?
En phase d'arrêt, oui, c'est une bonne idée. Quand on est en sevrage, c'est une bonne chose d'avoir ce substitut en fait. Le seul truc, c'est qu'on observe aujourd'hui, maintenant on commence à avoir des résultats sur les effets à long terme d'inhaler de la vapeur. Nos poumons ne sont pas faits pour ça, c'est comme si on vivait dans un hammam pendant des années et des années. C'est pas bon d'humidifier comme ça les poumons avec un peu de substance et même le sucre en fait. Le sucre dans les produits sont assez nocifs pour les bronches au final. Après, clairement, comparé à une cigarette où il y a des produits chimiques, il y a du mercure.
Oui, merci, parce que bon, moi je trouve qu'en France, on est toujours un peu, je sais pas, avoir toujours le verre à moitié vide. Enfin là, quand même, si ça peut permettre de faire un pont vers la liberté, bon.
Ouais, exactement.
Après oui, il y en a qui biberonnent pendant 5-6 ans.
C'est ça,
voilà.
C'est juste ça le risque.
Même plus d'ailleurs, puisqu'ils le font même à l'intérieur, ils ont même plus besoin de sortir, enfin voilà.
Tout à fait.
Ça je comprends, ouais.
C'est cette addiction comportementale, c'est plus une addiction comportementale maintenant qu'une addiction avec substance. C'est cette addiction-là qui peut être notamment très difficile à enlever après. Plus on répète un comportement, plus il est difficile à oublier. Donc plus les gens utilisent leur cigarette électronique, plus ils vont être obligés de le faire. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est un loisir, c'est un hobby, ça reste quand même une substance qu'on ingère. Et c'est comme manger des beignets, je veux dire, c'est pas bon pour le corps non plus. Donc il ne faut jamais oublier que plus on le fait, plus on en aura besoin plus tard.
Ouais, c'est intéressant. Et dans ces cas-là, toi tu conseilles quoi comme méthode pour se défaire, par exemple, de cette habitude de la cigarette électronique suite au sevrage ? Je pense que les TCC sont particulièrement bien adaptés, non ?
Oui, comme là on est sur quelque chose de très comportemental. Mmh. On a beaucoup de techniques comportementales pour aider à changer une habitude comme ça de comportement. Ça dépend des gens. Nous, on fait ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles. Donc, une personne en tant qu'individu va avoir différentes variables qui vont venir l'influencer. Mmh. Donc, nous, on va agir sur son comportement en utilisant des méthodes validées, mais toujours en tenant compte de cette analyse fonctionnelle propre à la personne.
Donc, pour une seule problématique, ce sera peut-être un problème lié à la cigarette électronique, mais vous allez peut-être découvrir au fur et à mesure qu'il y a d'autres comportements de ce type-là qui ont amené à ça, ou c'est quoi le...
Non, ouais, c'est plus... l'analyse fonctionnelle va plutôt nous dire qu'est-ce qui fait que la personne a ce comportement.
Ah oui.
Quelles sont les conditions à ce comportement, et on jouera aussi avec ces conditions en plus du comportement.
Bien sûr.
Donc si elle est seule, si elle est avec des gens, si c'est le goût qu'elle aime, si c'est la chaleur, enfin voilà, tout ça on en tient compte.
Bien sûr. D'après toi, la politique de prévention, est-ce qu'elle est efficace ? On a déjà parlé du prix, on a parlé des interdictions dans différents lieux, etc. Mais auprès des ados, quelle est la méthode qui, d'après toi, pourrait fonctionner pour qu'ils aient moins peur de dire non à la cigarette ? Parce que je crois qu'on ne va pas s'acheter des cigarettes tout seul et qu'on se met à fumer tout seul dans sa cave, quand on est détaché, bien sûr. Pourquoi finalement l'ado n'arrive pas à dire à son pote « Écoute, je suis désolée, ça ne m'intéresse pas ». Enfin, peut-être qu'ils y arrivent, j'imagine que certains y arrivent, mais comment faire ?
Voilà. En fait, tout ce qui est préventif fonctionne très bien quand effectivement on cible le public. Les messages qui font appel à la peur, par exemple, ont été démontrés inefficaces. Encore qu'ils ont été montrés efficaces pour ceux qui ne consomment pas la substance. Donc les non-fumeurs vont être beaucoup plus sensibles aux messages qui font peur. Ouais. Ils avaient fait ça pour se brosser les dents, où ils montraient des caries, des choses. En fait, ça marchait pour les gens qui se brossaient déjà bien les dents. Ils se brossaient encore plus les dents, mais pas ceux qui ne se brossaient pas les dents. Il y a un phénomène de « j'en suis encore loin, j'ai le temps de voir
les œillères, voilà. Etc.
Donc la prévention doit plutôt cibler, je pense quand même, des informations objectives, dire concrètement ce que ça fait et ce qu'on va ressentir et voir dans le court terme, le moyen terme et le long terme, donc être honnête, sans jugement de valeur, sans jamais priver quelqu'un de sa liberté de le faire si elle veut, si c'est légal, bien sûr, mais toujours de se dire voilà les infos qu'on a, qu'on connaît, et toujours se dire et sensibiliser du coup en même temps aux autres dimensions qui font qu'on fume, par exemple. Si c'est pour un aspect social, plutôt viser la confiance en soi et qu'on n'est pas quelqu'un de bien parce qu'on fait comme les autres, par exemple, que ce soit fumé.
C'est délicat à l'adolescence, franchement.
C'est forcément délicat, mais le message, s'il peut tourner là-dessus, c'est déjà plus pertinent. On voit les effets qui commencent à venir pour le harcèlement aux États-Unis, par exemple, où ils ont vraiment fait une politique de prévention et ils ont réussi à faire passer les gens qui défendent les autres pour des gens cool, en fait. Des gens qui sont trop top. Donc, il y a vraiment une connotation positive à aller aider quelqu'un qui se fait harceler. D'accord. Et en France, on y arrive tout doucement. Et en fait, ça marche.
Très bien. Merci, Lucas. On arrive déjà au terme de l'émission sur la cigarette. La semaine prochaine, nous écouterons celle sur l'alcool.
Super.
Ah oui. Merci à toi, Lucas.
Merci.
À très bientôt. Oui. Au revoir.
Bonne journée.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,